Pour commencer cette séance, je vais dire simplement quelques mots. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Claustre du séminaire et du projet Notre-Dame. Alors pour ça, je vais procéder à un partage d'écran avec les ceux qui sont à distance. Voilà. Quelques manipulations. Voilà, là j'ai lancé le partage d'écran, simplement pour que chacun, aussi bien dans cette salle que dans la salle virtuelle, ait le même type d'informations sous les yeux. Donc aujourd'hui commence un séminaire qui est intimement lié à un projet de recherche, projet que Darwin Smith et moi avons proposé de baptiser ENDP, un projet qui s'est dessiné au cours de l'année 2019 à la suite de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, et un projet qui s'est précisé au fil des mois depuis plus d'un an, d'abord sous l'impulsion de Darwin Smith et aussi de Guylain Brunel. La destruction du toit de la cathédrale n'a pas seulement suscité une vive émotion, elle est venue aussi rappeler l'ampleur de la méconnaissance publique qui entoure l'histoire de la cathédrale de Paris. Bien peu, en effet, savent que la cathédrale, avant le XIXe siècle, n'était pas seulement un lieu de culte, n'était pas seulement une œuvre architecturale magistrale, mais que c'était aussi tout un quartier, que la cathédrale, ce n'était pas seulement l'église de l'archevêque, mais que c'était aussi l'église, et surtout d'abord, en fait, d'une communauté de clercs, les chanoines de Notre-Dame, qui, à bien des égards, étaient les vrais maîtres de la cathédrale elle-même, les vrais maîtres du parvis, des rues et des maisons environnantes. Et donc le projet ENDP est parti du constat que le chapitre Notre-Dame restait mal connu et mal compris du public, mais aussi, il faut le reconnaître, en fait, d'une partie des historiens. De manière générale, de toute façon, les chanoines cathédraux, ni moines, ni simples prêtres, en dépit de leur longue histoire, constituent des communautés cléricales qui restent malaisées à définir simplement et malaisées à faire comprendre simplement à ceux qui ne sont pas familiers, très familiers de ce type de communauté. Et les chanoines de Notre-Dame ont laissé une ample documentation, donc une longue série de registres de décisions du chapitre. Vous voyez, là, j'ai commencé par prendre moi-même une première décision pour les qualifier. Je parle de le registre de décision du chapitre. Une longue série qui commence en 1326. En effet, cette communauté de 51 chanoines se réunissait. Merci. Cette communauté de 51 chanoines se réunissait trois fois par semaine pour prendre toutes les décisions relatives à la gestion de ses droits, à l'administration de la cathédrale, à l'administration du patrimoine du chapitre, et aussi de la société extrêmement diverse qui était la société du cloître Notre-Dame. Les registres capitulaires sont issus de ces réunions, et aux Archives nationales, ils composent un corpus de 170 volumes qui vont des années de 1326 à 1790. Ce corpus n'a jamais fait l'objet d'une étude systématique pour comprendre l'histoire de cette communauté urbaine qui a joui jusqu'à la Révolution d'une exemption juridique et fiscale par rapport au roi et par rapport à la ville. Ces registres sont foisonnants, mais absolument essentiels pour comprendre la nature de l'institution capitulaire, comme l'extension de la puissance de la communauté capitulaire parisienne. Et ils restent aujourd'hui sous-utilisés par les historiens, parce qu'il faut bien reconnaître qu'ils sont d'un abord vraiment mal commodes. Donc, au-delà du fait qu'ils sont en latin pour l'essentiel, pour les siècles, les 14e et 15e siècles, la série et la manière dont se présente la série reste d'un abord extrêmement compliqué pour les historiens. Et donc le projet ENDP que l'Agence nationale de la recherche a sélectionné propose en fait d'essayer de favoriser la connaissance de Notre-Dame de Paris, d'abord par l'édition collaborative, des outils d'édition collaborative numérique des 26 registres d'époque médiévale, 1326-1503, actuellement conservés aux Archives nationales, et donc la création d'un ensemble d'outils d'investigation dans ce fonds. Ce projet est porté... J'essaie de changer de diapo.
les flèches.
Non, je vais avancer. C'est très simplement. Non, c'est pas là. Un point technique avec cet ordinateur qui n'est voilà, donc ça rend plus simplement comme ça, effectivement. Le changement sera plus simple de cette manière. Merci, Isabelle. Donc, le projet qui est porté par la MOP, hein, à votre partenaire, évidemment les Archives nationales, le centre Jean Mainvillon de l'École des Chartes, la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque Mazarine, parce qu'au-delà du complexe d'édition, du dispositif très compliqué d'édition collaborative qui est envisagé, le projet ambitionne aussi d'entamer ses propres analyses historiques dans le fonds documentaire qui va ainsi être rendu plus accessible aux chercheurs et au public. Il s'agira notamment, grâce aux informations que la série recèle, de proposer des reconstitutions numériques du parcellaire du cloître, de mieux connaître les usages des livres au chapitre et la bibliothèque du chapitre, dont 350 volumes sont aujourd'hui conservés à la Bibliothèque nationale et à la Bibliothèque Mazarine, enfin d'étudier les rapports qu'entretenait le chapitre avec les autres seigneuries parisiennes et avec les hommes et les femmes qui dépendaient de lui. Et c'est pourquoi le projet rassemble donc toutes ces institutions, et c'est aussi pourquoi les séances du séminaire vont nous amener à circuler entre ces diverses institutions au fil de l'année, hein, de ces séances. Alors, ces séances, elles vont, on les a réparties grossièrement thématiquement, elles vont mobiliser des spécialistes qui, pour la plupart, sont partie prenante du projet, mais aussi d'autres chercheurs qui ont accepté de venir travailler avec nous et d'éclairer certaines questions dont ils sont spécialistes. Alors on va faire en sorte que les séances puissent être suivies à distance tant que les circonstances sanitaires nous y obligent. Et on essaye de faire en sorte que les séances soient aussi systématiquement possible enregistrées. Actuellement, je vérifie si c'est effectivement le cas. Hein, il y a une captation sonore qui est faite en parallèle, captation sonore qui sera partagée sur le site du LAMOP, hein, pour que ceux qui n'ont pas pu assister aux séances, ni physiquement, ni virtuellement, puissent éventuellement écouter a posteriori ces séances. Et donc, hein, les séances vont traiter thématiquement, après cette première séance, d'un certain nombre d'aspects. Il y aura l'archivistique du chapitre qui sera traitée, il y aura le fonctionnement institutionnel du chapitre qui sera évoqué. Évidemment, il y aura une séance spéciale consacrée au projet d'édition des registres du chapitre, qui est vraiment le cœur, hein, qui constitue le cœur du projet et qui représente un véritable défi scientifique et technique, on va dire. Il y aura une séance consacrée à la topographie du cloître, une autre à la gestion du chapitre, et puis deux séances consacrées aux usages du livre au chapitre. Avec une séance plutôt tournée vers l'enseignement, hein, et une autre plutôt tournée vers la liturgie, la musique et les dévotions également. Donc ça, c'est pour gérer l'annonce thématique générale du séminaire. Séances qui seront suivies à distance, il y a aussi d'autres outils qui ont été créés, que je veux mentionner aujourd'hui, pour ceux qui ne le sauraient pas. La première adresse que je mentionne ici, lamophypothèse.org, ça va être en fait une adresse sur laquelle seront centralisées un certain nombre d'informations sur l'avancée du projet, hein, mais aussi les captations des séances, les diaporamas des séances du séminaire. Bon. Et puis les deux autres adresses que j'indique, ce sont des outils qui ont été créés, des ressources, hein, qui ont été créées extrêmement amples, donc un share doc comporte à la fois des ressources bibliographiques, un ensemble d'articles et d'ouvrages, et puis aussi, sur ce ShareDoc, il y a déjà un ensemble de ressources documentaires, c'est-à-dire que les registres capitulaires, dans leur version actuellement microfilmée, hein, se trouvent sur ce ShareDoc et peuvent être téléchargés. Regardez sur ce ShareDoc, qui est absolument public, qui est hébergé sur le site Humanum. Et la dernière chose qui a été créée pour les besoins des participants du projet, hein, mais qui peut être élargie au-delà des participants du projet, c'est une bibliographie collaborative sous Zotero qui comporte maintenant pas loin de 800 références, qui se centre sur le chapitre, les différents aspects de l'histoire du chapitre Notre-Dame, mais qui à partir de là aussi enfin, rayonne dans un certain nombre de directions. Donc, je pense que c'est aussi une ressource qui est intéressante pour le travail collectif. Alors, s'il était évident pour nous que la première séance devait porter sur le corpus situé au cœur du projet, et donc que cette séance devait aussi se dérouler aux Archives nationales qui conservent ce corpus, nous avons aussi souhaité que la séance suivante, je me permets de l'annoncer dès maintenant, aborde les questions historiographiques et épistémologiques que pose un projet qui engage les rapports entre sciences historiques et techniques, les rapports aussi entre histoire et patrimoine, et qui est donc un objet, qui constitue en cela un projet complexe. Et il s'agira aussi d'aborder les questions historiographiques et épistémologiques que pose un objet qui crée autour de lui un collectif de recherche hétérogène, parce qu'il réunit des établissements, des disciplines, des spécialités, des parcours de formation et des méthodes qui sont assez différents. Il n'y a pas tous de planètes totalement éloignées, malgré tout, histoire, diplomatique, informatique, humanité numérique, philologie, histoire de l'art, c'est tout cela qui est appelé à travailler ensemble et cela pose des questions spécifiques, on commence à peine à l'apercevoir et il nous semble indispensable d'y réfléchir en même temps que l'on conduit de façon opérationnelle le projet. Et la notion d'objet intégratif qui a été proposée par Anne-Françoise Schmitt pour décrire les objets de la science actuelle nous a paru correspondre en partie à l'objet Notre-Dame et à la manière dont ce projet entend le saisir. Et donc nous remercions particulièrement Anne-Françoise Schmitt d'avoir accepté de discuter avec nous de la démarche qui s'ouvre aujourd'hui, notamment à la séance du 17 novembre, mais elle a accepté de nous suivre sur une plus longue durée. Alors, j'ai suffisamment parlé, je crois, et donc c'est maintenant directement le corpus nodal des registres capitulaires que l'on va tâcher de présenter aujourd'hui. Et pour commencer cette présentation, c'est celui qui est le conservateur de la série aux Archives nationales, Sébastien Naviras, qui va commencer par évoquer l'ensemble archivistique dans lequel la série des registres capitulaires prend place, à savoir le fond du chapitre Notre-Dame. Et puis ensuite, c'est Isabelle Bretauer, également des Archives nationales, qui nous présentera une approche codicologique de ces registres, une première approche codicologique de ces registres et des éléments de comparaison avec d'autres séries de registres capitulaires. Et puis, aussi en fonction du temps que toutes ces présentations auront pris, Darwin Smith et moi-même, on apportera aussi notre lot de remarques sur la forme de ces registres, leur contenu et quelques éléments premiers d'approche. Donc, Jeanne Méliane, et je te passe la... Je passe le siège et la parole à Sébastien Naviras.